Des poches sous les yeux, l'interview, en partenariat avec la boîte à livres.
Alors bonjour Jean-Thierry, vous
bonjour.
Allez rencontrer vos lecteurs tourangeaux à la librairie La Boîte à Livres dans quelques instants. Vous participerez à une émission de télévision. Alors je vous remercie d'accorder un petit peu de votre temps pour les auditeurs de Radio Béton. On va bien sûr parler de votre dernier roman, Fleur de tonnerre, paru chez Julliard en mars dernier. Mais avant, on va faire un rapide point sur votre parcours jusqu'à maintenant, un parcours dense et varié. Vous avez été chroniqueur à la télévision, donc notamment dans Nulle part ailleurs sur Canal+, L'assiette anglaise de Bernard Rapp. Vous avez été acteur, scénariste, et puis depuis maintenant une vingtaine d'années, romancier. Mais au tout début, vous étiez illustrateur. Vous avez collaboré notamment pour L'écho des savanes, et puis avez travaillé avec Jean Vautrin pour Bloody Mary, une bande dessinée mythique des années 80. Vous apparaissez donc comme un homme multiple facettes, à la large palette. Pourquoi, comment en êtes-vous arrivé à consacrer l'essentiel de votre activité à l'écriture ?
Ben, c'est venu par hasard. Et moi, en fait, je ne lisais pas beaucoup de romans. Et je n'en lis d'ailleurs toujours pas. Et c'est un jour une dame qui est morte maintenant, qui s'appelait Elisabeth Gilles, qui était éditrice chez Julliard, qui un jour m'a appelé à la télé. Au téléphone et qui m'a dit voilà, ça fait des années que je vous écoute à la télé, ça fait des années que je me dis qu'en fait vous êtes un écrivain qui ne le savait pas, venez, je vous signe un contrat. Et ça a démarré comme ça, et du coup j'ai écrit un premier roman et puis j'y ai pris drôlement goût. Et puis du coup, j'ai arrêté toutes mes autres activités pour ne faire plus que ça. Et je trouve que c'est quand même une chance dans une vie quand on peut rencontrer quelqu'un qui devine pour vous ce pourquoi vous êtes fait.
Alors votre dernier roman, Fleur de tonnerre, raconte la vie d'une Bretonne au 19e siècle, empoisonneuse en série, qui fut guillotinée en 1852. Alors qu'a-t-elle de particulier, votre héroïne ? Qu'est-ce qui, chez elle, vous a à ce point interpellé pour que vous ayez eu envie d'écrire son histoire ?
C'est que c'est la plus grande tueuse en série du monde et qu'elle était complètement inconnue. Je suppose que vous n'aviez jamais entendu parler d'elle.
Jamais.
Et même en Bretagne, parce que c'était une Bretonne, moi j'ai une maison en Bretagne, et quand j'ai parlé de ça à mes copains, j'ai dit je vais écrire un livre qui va raconter la vie d'Hélène Gigado, tous me disaient mais c'est qui ? J'ai dit comment ça c'est qui ? C'était une Bretonne, et puis c'est la plus grande tueuse du monde. Et cette femme est inconnue, alors que. Elle est inconnue alors qu'elle a tué beaucoup plus de gens que des gens comme Landru, Docteur Petiot, Jacques l'Éventreur et tout ça. En femme, jamais une femme n'a tué autant de gens sur Terre. Et elle est inconnue pour une raison simple, c'est que son procès a démarré un samedi le 6 décembre 1851. Et qu'il se trouve que 4 jours plus tôt, le mardi 2 décembre, il y a eu le coup d'État de Napoléon III. Ça a été un cataclysme en France, ça, le coup d'État et tout. Donc son procès a été zappé. Et ensuite, eh ben, elle est passée dans les oubliettes de l'histoire. Et moi, quand j'ai appris son existence, je me suis dit, ben, il faut la remettre en valeur, cette petite fleur de tonnerre. Fleur de tonnerre, c'est le titre du livre, et c'était le surnom que lui donnait sa mère. Et sa mère qui a été sa première victime, parce qu'elle a empoisonné sa mère à 8 ans, ce qui est un bon départ dans la vie, quoi.
Oui.
Et elle a tué des gens jusqu'à 48 ans. Elle a été condamnée pour accusée à son procès de 37 meurtres. Mmh. Mais en allant à la guillotine, elle a dit au bourreau, là là, mais j'ai porté le deuil et la désolation dans un beaucoup plus grand nombre de familles. Et maintenant, on est à peu près persuadé qu'elle a tué plus de 60 personnes, quoi. Et j'avais envie de raconter l'histoire de cette femme.
Alors donc, vous le disiez, c'est sa maman qui l'avait surnommée Fleur de tonnerre. Elle était peut-être un petit peu prédestinée à accomplir ce destin de meurtrière.
Ben, elle a expliqué, pas à son procès, parce qu'à son procès, elle n'a rien voulu dire, mais la veille de son exécution, il y a un abbé qui est venu dans sa cellule, et puis il y avait le gardien-chef de la prison. Et là, tout d'un coup, elle s'est mise à parler. Mmh. Et elle s'est mise à raconter que le problème de sa vie, c'est en fait, c'est que quand elle était petite fille, tous les soirs, au moment de la veillée, elle entendait des légendes bretonnes. Et les légendes bretonnes, c'est des trucs de cinglés, avec des personnages complètement barrés, avec des poupiquets, des corrigans, des Marie Morgane, des fées, des sirènes, des trucs comme ça. Et surtout, un personnage qui, lui, est très connu en Bretagne, un personnage légendaire, qui est Lankou. Lankou, c'est l'ouvrier de la mort. Il représente la mort, il est représenté avec une tête en forme de squelette, il a un grand chapeau, une grande cape, et il se balade que dans les sur les chemins de Bretagne, avec une grande faux avec la lame emmanchée à l'envers, et il a une charrette, la carriguelle de Lankou, et tous les humains qui croisent, schlaf, il les fauche, et leur corps tombe dans la charrette. Et le problème de cette Hélène Jégado, ben, c'est qu'à un moment, à force d'entendre parler de Lankou, eh ben, elle s'est prise pour la réincarnation de Lankou. Et donc, dès l'âge de 8 ans, après avoir tué sa mère, elle s'est retrouvée cuisinière, apprentie cuisinière, puis cuisinière, notamment dans des presbytères, des maisons de curés, comme ça, et puis des maisons bourgeoises, et même plus tard dans des bordels militaires. Et elle allait de place en place faire la cuisine. Et elle empoisonnait les gens à l'arsenic. Et l'arsenic, on retrouvait ça très facilement parce que c'est ce qui servait de mort aux rats à l'époque. Et elle tuait tout le monde. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, tout ce qui vivait. Et même les gens qu'elle aimait beaucoup. Des fois, elle avait beaucoup de peine quand ils étaient morts. Mais elle les avait empoisonnés quand même. Mmh. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle a pu faire ça pendant 40 ans. Mmh. Parce que c'est à 48 ans qu'elle s'est faite attraper et qu'elle a été évidemment condamnée à mort.
Alors, ce qui frappe dans son parcours, enfin, ce qui moi m'a frappé finalement, c'est plus que le nombre effectivement tellement important de ses crimes, c'est la liberté. La liberté déjà qu'elle a eue, hein, comme vous le disiez, d'accomplir pendant si longtemps ses méfaits, mais la liberté aussi qu'elle a pris de parcourir les routes seule, ayant décidé assez jeune, je pense, qu'elle n'aurait pas d'enfant.
Non, Hélène Jégado, elle ne peut pas donner la vie. Elle ne donne que la mort. Donc, quand à un moment, on lui avait demandé si elle voulait avoir un enfant, si elle avait été enceinte, elle a dit, si j'avais été enceinte, j'aurais avorté. Elle ne donne que la mort. Mm-hmm. Donc, elle ne pouvait pas imaginer de donner la
Bien
vie.
Sûr. Et puis aussi, la liberté sexuelle qu'elle s'est accordée, a priori, c'est une femme c'est sensuelle, charmante,
ouais,
telle que vous la découvrez. On pourrait presque dire d'Hélène Jégado qu'elle était féministe avant l'heure. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça?
Ah ouais. Mais oui, mais moi, paradoxalement, je l'aime bien. Je l'aime bien et j'aurais bien aimé la connaître.
Ça se sent, ouais.
Mais je ne serais pas allé jusqu'à lui demander de me faire
non.
la cuisine. mais moi, j'aimerais bien. Et d'ailleurs, quand, il y a quelques semaines, j'étais à Rennes pour faire des dédicaces, une conférence, une grande conférence et tout. Et dans un des musées de Rennes, dans les réserves, ce n'est pas exposé, ils ont gardé le moulage de sa tête après qu'on lui a coupé la tête. Et ils l'ont sorti pour moi. Et j'avais sa tête dans la main.
Quel privilège.
Et alors, c'était très impressionnant parce que moi, j'avais passé un an et demi avec elle. Mm-hmm. Et je pouvais tourner sa tête. Et puis, sa vraie tête, mm-hmm. c'était le moulage. Et j'ai trouvé qu'elle avait une toute petite tête, d'ailleurs. Mm-hmm. Et puis, qu'elle était mignonne et tout. Puis, je la regardais. Puis, j'ai dit, ma petite fleur de tonnerre. Mais qu'est-ce que t'as fait, comme grosse bêtise. Mais on tue pas les gens comme ça et tout. Et j'étais tout ému. Je lui caressais ses joues. Je m'amusais à lui l'embrasser le bout du nez et tout, et c'était tout à fait touchant.
Ça ressemblait un petit peu morbide comme ça, en fait.
Mais je m'y étais attachée,
vraiment, sincèrement.
Ma petite chérie, non, mais qu'est-ce que t'as fait, puis voilà.
Mais vous pourriez la voir comme une féministe
Oui, sûrement, en tout cas. Oui. Elle était très libre, et puis effectivement, notamment quand elle s'est retrouvée dans ce bordel militaire où elle était formidable, parce qu'elle avait ses clients qui s'occupaient, qui faisaient ce qu'ils avaient à faire sur elle et tout. Et pendant ce temps, elle leur disait, tenez, mangez en même temps une part de mon gâteau et tout, et, parce qu'elle empoisonnait surtout les gens avec une soupe aux herbes ou un gâteau. Dont on connaît la recette. Et d'ailleurs, il y a une pâtisserie à Rennes qui refait le gâteau d'Hélène Jégado.
D'accord.
Avec la même recette, sauf que sur le gâteau, il y a une bande en travers où il y a écrit garantie sans arsenic.
D'accord.
Et dans son gâteau, elle mettait de l'angélique confite. Angélique, le gâteau d'Hélène Jégado. Et elle mettait de l'angélique confite parce que l'angélique, c'est vert. Mmh. Et que l'arsenic en cuisant a la particularité de prendre une teinte verdâtre. Mmh. Et donc, c'est, du coup, ça dissimulait l'apparence visuelle de l'arsenic. C'est aussi pour ça qu'elle empoisonnait les gens avec sa soupe aux herbes bretonnes. Parce que pareil, parce que c'était vert. Vert. Et puis, dans son gâteau, elle mettait des zestes d'orange amère et des amandes amères pour masquer l'amertume du gâteau. Quoi. Elle était très maligne.
Oui, très intelligente, ouais, de plus. Alors, au-delà de la description des crimes commis par Fleur de Tonnerre, votre roman restitue le contexte particulier de la Bretagne dans la France du 19e siècle, une Bretagne qui est restée, donc, on l'a dit tout à l'heure, une terre de légende, réfractaire à la religion catholique, à la langue française qu'elle se voit imposer. Bon, on est dans un territoire un peu d'opposition, si je puis dire, et puis Fleur de Tonnerre, là, avec sa carrière finalement qu'elle s'est faite, s'oppose aussi d'une certaine manière. Bon, après, j'extrapole un petit peu, mais ça vous a plu de parler de la Bretagne? Vous êtes breton, oui. Vous aussi?
Non, moi je suis normand, mais j'ai acheté une maison en Bretagne. Et j'aime beaucoup ce pays. Mmh. Et ça me plaisait de raconter toutes les légendes bretonnes, toutes ces cultures celtiques, ces superstitions, ces croyances complètement folles. En Bretagne, par exemple, à l'époque de Hélène Gégado, il y avait des églises qui s'appelaient Notre-Dame de la Haine. Mmh. De la Haine. C'est-à-dire que c'était des églises où on allait prier pour la mort de quelqu'un. Complètement incroyable. Et il y avait aussi un saint qu'on appelait Saint-Yves de Vérité, qui avait la réputation d'avoir du pouvoir, mais d'être feignant et revêche. Et ce qui fait que quand on voulait qu'il exauce un vœu, il fallait lui foutre sur la gueule. Donc les gens allaient prier le saint avec un fouet et fouetter la statue du saint en disant « je veux ceci, je veux cela » et tout, et à coups de bâton dans la statue. Enfin, c'était un pays de superstition, de dinguerie et tout. Et moi, j'avais envie de raconter ça. Et d'ailleurs, là, j'ai mis une phrase en exergue du livre, avant même que le roman commence, une phrase d'un monsieur qui s'appelait Jacques Cambry, qui a été le fondateur de l'Académie celtique en 1805, et qui avait écrit une phrase que j'aime beaucoup, il a écrit « chaque pays a sa folie, la Bretagne les a toutes. » Oui. Comme ça, au moins, c'est réglé. Oui. Le livre n'est pas encore commencé, qu'on est en plein dans cette dinguerie. Mmh. Hélène Gégado, elle pouvait absolument être que bretonne. Ça n'aurait pas pu être une fille de Tours, quoi. Parce qu'elle est un fruit des légendes bretonnes, des superstitions bretonnes.
Alors, aux côtés de Fleur de Tonnerre, il y a toute une galerie de portraits, notamment ces deux perruquiers normands qui parcourent la Bretagne à la recherche de cheveux dont ils font le commerce. Alors, bien sûr, ils vont croiser la route d'Hélène Gégado et essuyer surtout nombre de péripéties sur la terre de Bretagne qui leur est particulièrement hostile. Alors, avec eux, on reconnaît, je crois, hein, chez vous, la patte de l'illustrateur, parce qu'on les verrait bien prendre place dans une bande dessinée. Est-ce que vous avez pensé à la bande dessinée en écrivant ce roman qui constitue un peu une succession de tableaux ?
Non, j'y ai pas pensé, mais ça m'étonne pas que ça y soit, parce que comme moi, pendant 11 ans, j'étais dessinateur de bande dessinée, j'ai toujours ça en tête. Et puis moi, pour raconter une scène, il faut que je la visualise, il faut que je l'ai en image dans la tête.
Ça se sent particulièrement dans ce livre. Hein. J'avoue que je n'avais pas prêté attention en lisant Le Montespan, notamment, ce genre de choses. Mais là, j'ai vraiment l'impression que oui, ça pourrait parfaitement être adapté sur une bande dessinée.
Ça le sera peut-être. J'ai déjà plusieurs romans qui ont été adaptés en bande dessinée. Le Montespan, François Villon, il y a le premier tome qui est sorti, le deuxième va sortir dans l'année. Là. Il y a eu Le Magasin des Suicides qui est sorti aussi en BD. Et puis là, en novembre, je crois, il y a Charlie Neuf qui va sortir aussi en bande dessinée.
C'est vous qui avez...
Non, je fais rien. Non, je m'occupe de rien du tout. D'accord. Ni les pièces de théâtre tirées de mes livres, ni les films, ni les bandes dessinées, je m'occupe de rien du tout.
D'accord. Et alors, donc je reviens à ce couple de Normands qui sont là tout au long du récit, finalement, du début à la fin. Et ils arrivent des fois un peu comme un cheveu sur la soupe, mais pourquoi alors, en fait
J'avais envie parallèle de l'histoire d'Hélène Gégado, d'inventer, là pour le coup, ils sont inventés, deux perruquiers normands. Et c'était vrai, parce qu'au 19e siècle, il y avait beaucoup de perruquiers en Normandie. Et les perruquiers allaient acheter des cheveux en Bretagne parce que même les hommes les portaient très longs. C'était une région où les hommes portaient les cheveux très longs. Et comme ils étaient très pauvres, les Bretons, les perruquiers normands arrivaient dans les marchés et faisaient asseoir les Bretons qui voulaient bien sur des chaises et ils leur coupaient les cheveux. Et en échange de leurs cheveux, ils leur donnaient une petite pièce, une petite piécette comme ça pour survivre et tout. Et ça m'amusait de raconter ces perruquiers normands qui n'ont que à qui il arrive que des catastrophes
en
Bretagne. Ils sont de plus en plus mutilés, tout leur arrive. Mais peu à peu, alors au début ils n'arrêtent pas de dire que de la Bretagne que c'est un pays de merde et tout, qu'est-ce qu'on est venu foutre dans cette Bretagne de tarés et tout ça. Et peu à peu ils deviennent de plus en plus bretons. Et à la fin ils finissent, à toute fin du livre, ils finissent comme des personnages légendaires bretons dans une scène que je voulais complètement délirante. Et voilà, je voulais que. Parce que moi, c'est pareil, moi je suis un Normand. Moi, en fait, les deux paysans, les deux perruquiers normands, c'est moi, quoi. Parce que moi, je suis un Normand, je suis venu en Bretagne, et mes copains, maintenant, bretons, ils disent que je deviens plus breton qu'eux.
D'accord, oui. Alors, c'est vrai que je disais, bon, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, c'est pas vrai du tout, hein. C'est plutôt.
C'est pas mal de dire comme un cheveu sur la soupe à propos de perruquiers.
C'est sûr, surtout dans le contexte de la soupe aux herbes.
Mais en plus, ça devient comme un cheveu sur la soupe aux herbes.
Je vous remercie. Mais non, ils m'ont semblé être un peu un fil rouge, ouais. Fil conducteur dans ce roman. Alors, donc, bon, leurs péripéties donnent lieu à des moments particulièrement comiques, hein, où j'ai éclaté de rire, hein, dans les premières
mais moi,
pages.
Moi, j'aime bien ça dans les livres, qui est toujours, dans mes romans, qui est toujours de l'humour. Ouais. Moi, j'ai envie que ce soit un petit peu dur, qu'il y ait de la poésie, mais qu'on rigole.
Quoi, oui, non, c'est plutôt pas mal réussi. Il y a des moments comiques, donc. Mmh. Il y a aussi des moments horribles dans ce livre, notamment, bien sûr, alors, les descriptions de ce qui se produit physiquement chez les victimes d'Hélène Jégado au moment où ils rendent l'âme. À un moment donné, je me suis même demandé, mais je vais peut-être le retirer des mains de ma fille, quand même, parce qu'à 12 ans, c'est... Mais bon, je me dis non, enfin, finalement, c'est comme un conte. Et puis, c'est particulièrement bien amené. Donc, il y a aussi beaucoup de tendresse dans ce récit. La toute fin d'Hélène Jégado... cette empoisonneuse monstrueuse, finalement, elle laisse entrevoir, sous votre plume, un petit peu d'humanité, ce qui a manqué chez elle dans tout le livre. Vous passez du registre comique au tragique, à la tendresse, évoquant finalement toute la gamme des sentiments humains.
Ben ouais, c'est ça, ouais.
Est-ce que vous n'avez pas un peu cherché à réhabiliter Fleur de Tonnerre en écrivant et en nous donnant à lire son histoire?
Oui, sans doute, mais moi, Fleur de Tonnerre, en fait, je trouve que c'est la vie d'une femme qui a eu trop peur quand elle était petite fille. Quoi. Moi, je la comprends, en fait. C'est vraiment ça. Elle a entendu des choses trop horribles quand elle était môme, et ça lui a vissé la tête de travers, et elle n'a jamais pu s'en défaire. Et en fait, c'est l'histoire d'une femme malheureuse qui a eu trop peur quand elle était petite fille.
Ce qui est terrible, c'est qu'elle a même pas pu l'exprimer pendant son procès, et qu'elle elle confie cette angoisse à son geôlier, à la toute fin.
Et on sait, et je raconte ça, que dans la dernière nuit qu'elle a passée en prison, juste avant qu'on lui coupe la tête, qu'elle a fait pipi au lit. Et ça, c'était important de le raconter pour moi. Tout d'un coup, voilà, elle redevient une petite fille, elle est comme une petite fille qui a peur et qui fait pipi au lit. Petite bonne femme. Voilà.
Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
J'espère que nos auditeurs auront plaisir à découvrir Fleur de Tonnerre.
Ouais.
Et puis, je vous souhaite une bonne rencontre avec vos lecteurs tourangeaux ce soir à la boîte à livres.
Merci.
C'était l'interview des poches sous les yeux en partenariat avec la boîte à livres. Retrouvez cette interview sur radiobeton.com, despochessousleyeux.fr ou encore la page Facebook des poches sous les yeux. Ah